Eh bien, nous allons ouvrir notre Bible dans la fin du livre des Juges à nouveau, chapitre 21, verset 25. Et nous reprenons donc la même lecture qu'hier, qui va jusqu'à Ruth, chapitre 1er, nous irons jusqu'au verset 5. Donc Juges 21, 25 à Ruth. Chapitre 1er, verset 5. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kilion moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Nous y ajoutons un court texte dans le premier livre de Samuel, au chapitre 22, les 5 premiers versets, 1 Samuel 22, versets 1 à 5, un extrait de la formation de David à la royauté, poursuivi par Saül et son armée, son élite. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse. Va-t'en et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Nous avons donc commencé à tisser la toile de fond de l'histoire de cette petite famille dont nous allons nous entretenir sous peu. Du temps des juges. Nous avons évoqué la période faste qui a précédé le temps des juges, ces quelques 25 années de conquête et d'installation dans le pays où coule le lait et le miel. Nous avons essayé brièvement, à la lumière de quelques textes des Écritures, de décrire la beauté, la richesse, la générosité aussi de Dieu concernant le don de ce pays. Et nous avons été attentifs à notamment l'importance de l'eau sur cette terre. d'après les textes. Et puis nous sommes passés là de la lumière à l'obscurité en nous penchant quelque peu sur ces 7 cycles qui parcourent les quelques 350 années à peu près de l'histoire d'une douzaine de juges, ceux qui ont été sélectionnés par Dieu, parce que l'histoire avait quelque chose à apporter aux hommes de tous les temps. Et nous avons remarqué que le problème fondamental du peuple d'Israël dans cette période, dans ce temps des juges, nous l'avions dans cette expression de Juges 2, verset 10, « Une nouvelle génération se lève qui ne connaît pas l'Éternel. » Nous avons vu qu'il fallait creuser quelque peu, aller au-delà de notre signification très actuelle du terme « connaître » qui est devenu hélas par trop cérébral pour entrer dans la signification divine de cette expression. Connaître, avons-nous dit, en bref, c'est aimer. Aimer avec tout ce que cela peut signifier d'engagement, de don de soi, ce qui n'était pas le cas de cette génération. Pour cette génération, avons-nous dit, Dieu est devenu secondaire, périphérique, théorique, et nous avions terminé hier matin en reprenant cette conclusion du livre des juges. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y a dans le prophète Ésaïe, au chapitre 63 et au verset 19, une phrase qui, dans son contenu, ressemble étrangement à ce que nous venons de lire. Lorsque le prophète exprime à la fois la pensée de Dieu et l'état du peuple d'Israël à son époque, et qu'il dit « Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. » Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Dieu n'est plus roi. Nous l'avons vu hier, n'est-ce pas? Au-delà de l'indication d'ordre historique, à savoir que nous avons de cette manière la précision selon laquelle le livre des juges a été rédigé une fois qu'il y a eu effectivement un roi. Hélas, tout d'abord un roi selon le cœur des hommes. Mais au-delà de cette indication d'ordre historique, il est absolument évident que Dieu voulait dire autre chose. Le grand problème, c'est que Dieu n'était plus roi. Dieu n'était plus roi et chacun donc faisait ce qui lui semblait bon. Je ne sais si certains d'entre vous ont eu la curiosité d'aller reprendre le livre des juges et trouver un moment pour en relire certains passages, peut-être même cette conclusion des chapitres 17 à 21, qui n'est pas à lire avant de se coucher, de préférence, parce qu'il y a de quoi faire des cauchemars. Mais ces chapitres 17 à 21 sont vraiment le reflet de ce que signifie vraiment faire pour chacun ce qui lui semble bon. Vous avez comme dominante de ces chapitres 17 à 21, l'immoralité sexuelle, largement répandue, concubinage, homosexualité ouverte. Vous avez aussi la dureté et le mépris de la vie humaine. Il faut voir un peu le traitement qui est infligé à la concubine de ce Lévite, la guerre civile qui fait couler le sang à l'intérieur de ce peuple d'Israël. Et puis, il faudrait parler longuement de la démission du gouvernement civil qui ne fait plus régner la loi. On voit que c'est le peuple qui décide des solutions à adopter. On bricole des solutions. Il faudrait parler de la corruption des serviteurs dans l'Assemblée de l'Éternel. Il est question dans tous ces chapitres des Lévites qui ne remplissent plus leur fonction de Lévites convenablement, qui sont rejetés d'ailleurs par Israël lui-même, et puis leur propre conduite, concubinage, la manière dont les Lévites eux-mêmes font ce qui leur semble bon. Si vous avez lu ce passage, vous avez vu au chapitre 20, verset 28, le problème du souverain sacrificateur, Phinéas, qui n'était pas n'importe qui, parce qu'on le voit déjà bien avant le livre des Juges, beaucoup plus courageux et engagé, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Bref, la période du temps des juges ressemble de manière impressionnante à notre temps. Nous avons là, plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, un sombre portrait de notre société actuelle. Et bien entendu, nous l'avons dit hier, la main de Dieu s'appesantit sur le peuple désobéissant. Que de souffrances, de grandes souffrances, pour ce peuple livré entre les mains des païens. Et c'est dans ce cadre qu'apparaît donc ce verset premier du livre de Ruth, du temps des juges. Il y eut une famine dans le pays. Ce qui laisse entendre que dans la région de Bethléem, on était malade, spirituellement. Ça ne marchait pas avec l'Éternel. Je pense ici à ce texte de Lévitique 26, versets 18 à 20. Nous avons pris les premiers versets de ce chapitre hier concernant les bénédictions et malédictions. Et dans Lévitique 26, versets 18 à 20, il est dit ceci: si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Même chose dans le Deutéronome, nous refaisons le même parcours qu'hier, mais dans le domaine de la malédiction. Deutéronome 28, versets 15 à 18. Deutéronome 28, versets 15 à 18. « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Sécheresse, ciel fermé, ciel d'airain, avec toutes les conséquences tragiques. Et il faut faudrait prendre le temps, je ne vais pas le faire spécialement, mais passer très rapidement dessus, il faudrait prendre le temps d'évoquer tous ces textes, par dizaines, dans l'Ancien Testament qui vont dans le même sens. Là aussi, pour que nous en tirions des principes spirituels. Jérémie, chapitre 2, verset 13. « Car mon peuple a doublement mal agi, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Verset 18 du même chapitre 2. « Maintenant, que fais-tu sur la route d'Égypte pour aller boire l'eau du Nil ? Que fais-tu sur la route d'Assyrie pour aller boire l'eau du fleuve ?» Jérémie 3, versets 2 et 3. « Les ondées ont été retenues. Il n'y a pas eu de pluie plus printanière. » Jérémie 14, versets 3 et 4. Judas, déjà verset 2. « Judas est dans le deuil. Ses villes sont épuisées, sombres, abattues, par terre. Les cris de Jérusalem s'élèvent. Les puissants envoient les petits chercher de l'eau. Ceux-ci vont aux citernes, ne trouvent pas d'eau. » Et retournent avec leurs cruches vides. Dans leur honte et leur confusion, ils se voilent la tête. En effet, la terre est crevassée parce qu'il n'y a plus eu de pluie dans le pays. Alors, les laboureurs, dans leur honte, se voilent la tête. Et ce texte est introduit par ces mots, parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie à l'occasion de la sécheresse. Verset 22. Parmi les vaines idoles des nations, en est-il qu'il fasse pleuvoir? Ou est-ce le ciel qui donne les ondées? N'est-ce pas toi, Éternel, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui fais toutes ces choses. Nous aurions pu évoquer le torrent de Kérit dans l'histoire d'Élie, un de nos thèmes des années passées. 1 Roi 17, verset 7. Le torrent de Kérit est à sec. Osée 13, 15. Nous allons revenir longuement sur Osée dans les jours à venir. Éphraïm a beau être fertile au milieu de ses frères, le vent d'Orient viendra, le souffle de l'Éternel s'élevant du désert, il desséchera sa source, tarira sa fontaine. Joël, chapitre 1er, verset 14 à 20, les courants d'eau sont à sec. C'est l'introduction du livre de Joël. Quelle en est la conclusion? Chapitre 3, verset 18, « Les eaux couleront dans tous les torrents de Juda. » Et toute l'histoire du prophète Joël, n'est-ce pas, tout le message du prophète Joël s'inscrit entre des torrents d'abord à sec et puis une promesse à venir un jour, « Les eaux couleront dans tous les torrents de Juda. » Prophète Amos encore, chapitre 4, verset 7 et 8, « Moi, je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville, je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, et le champ sur lequel la pluie n'est pas tombée s'est desséché. 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. » Et puis un dernier texte, parmi tant d'autres. Agée, chapitre 1er, verset 6, verset 9 à 11 aussi. Le ciel vous a retenu la rosée. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur ce que produit le sol. Mais c'est impressionnant. Et combien nous avons tort, faut-il le dire au passage, de négliger les prophètes. Combien nous avons tort de nous arrêter sur des livres connu des Écritures et de passer à côté d'un message tellement important. Dieu parle et parle tout au long de l'Ancienne Alliance et à travers tous les prophètes de la même manière. Son langage ne varie pas d'un pouce. Dieu n'est pas instable. Dieu a une pensée claire, définie. Dieu est immuable dans sa pensée. Et derrière ces questions de météo, de récolte, de famine, se cache pour nous aujourd'hui, en 1993, en France, un message vivant et un message extrêmement solennel. Un commentateur, excellent d'ailleurs du livre d'Amos, écrira ceci: « Nous avons oublié que notre Dieu peut se changer en ennemi. » Nous avons tant parlé du risque de tomber entre les mains de Satan que nous avons perdu de vue la dangereuse éventualité de tomber entre les mains de Dieu. Éventualité que nous évacuons, ignorons et oublions à nos risques et périls. Et lorsque ce commentateur affirme cela, il ne s'adresse pas uniquement à ceux qui sont encore sans cité céleste. Il s'adresse aux enfants de Dieu. Craindre Dieu. Le respecter. Pour pouvoir mieux l'aimer. Donc la famine de ce début du livre de Ruth, de ce tout premier verset, est un accomplissement de ces malédictions de l'Éternel. Et c'est pour cela, je le disais il y a un instant, nous avons essayé simplement de le prouver, la région de Bethléem traverse une crise. Et une crise qui est avant tout d'ordre spirituel. Et c'est ce qui rend l'histoire de cette petite famille d'Élimélec d'autant plus intéressante. Le livre de Ruth, c'est l'histoire d'une famille au plus sombre de cette période. Quelqu'un dit que c'est un magnifique lys au milieu d'une mare stagnante. C'est l'histoire d'une famille, en tout cas au moins 60 ans, avant David, peut-être même une centaine d'années. David est né aux alentours de 1040, avant Jésus-Christ. Et bien sûr, nous le savons certainement, et si nous devions le découvrir aujourd'hui, eh bien tant mieux. La Bible nous montre clairement que Ruth est donc l'arrière-grand-mère de David. Et il y a bien sûr là aussi une intention historique évidente. Le chroniqueur n'a pas voulu manquer de léguer à la postérité cette petite histoire tellement riche, puisque au-delà de David, il y a le fils de David. Et vous savez que Ruth se retrouvera dans la généalogie de Jésus-Christ. Il y a donc là tout un message prophétique. Ce petit livre de Ruth n'est pas du tout un livre banal, une idylle champêtre. Bien loin de là. C'est peut-être une des pierres d'angle du message de l'Ancien Testament. Tourné vers la Nouvelle Alliance. Peut-être savez-vous que, encore aujourd'hui, ce petit livre de Ruth fait partie de 5 rouleaux lus en public à l'occasion des grandes fêtes juives. Et le livre de Ruth est lu entièrement à l'occasion de ce qu'on appelle la fête des semaines ou la fête de la moisson ou encore la fête de la Pentecôte, dans sa signification juive d'abord. Tout simplement parce que l'histoire de Ruth, disons que du chapitre 1, verset 1, à la fin du chapitre 4, il faut compter environ une quinzaine d'années à peu près. Mais en réalité, à partir du verset 6 du chapitre 1er jusqu'à la fin du chapitre 4, tous les événements se déroulent sur quelques mois, sur très peu de temps, entre Pâques et Pentecôte, pratiquement, ce qui est encore une fois tout un symbole, comme nous aurons l'occasion de le voir. Et nous braquons donc notre projecteur sur cette petite famille, je dirais famille à la française, deux enfants, c'était peu, enfin deux garçons, c'était pas mal quand même, puisque vous savez que dans la tradition juive, avoir des garçons, en tout cas, était très important. Non pas que les filles étaient secondaires, mais il y a tout un enseignement dans ce domaine. Il y avait en tout cas, je m'arrête là, deux garçons. Tout d'abord le père Élimélec, dont le nom signifie « Dieu est roi ». Dieu est roi. C'est intéressant, parce que le nom Élimélec est donc un témoignage. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, mais il y avait quelqu'un à Bethléem, dans une situation de crise spirituelle et par conséquent morale, sociale, économique. Il y avait quelqu'un dont le nom allait à contre-courant. Élimélec. Son nom était une affirmation. Dieu est roi. Qui sous-entendait très certainement que lorsqu'Élimélec est né, dans sa famille, on voulait affirmer la souveraineté de Dieu, la seigneurie de Dieu, la royauté de Dieu. On ne sait pas quels sont les événements qui ont présidé à la naissance et aussi d'ailleurs à la gestation, à la grossesse de la maman d'Élimélec. Vous savez que les noms qui étaient choisis souvent pour tenir compte d'un certain nombre d'éléments de vie, de foi, de perspective. Et on peut imaginer qu'il y avait là une forte portée positive. On louait la royauté de Dieu, la souveraineté de Dieu dans la naissance de cet enfant. Je pense à notre dernier, Emmanuel, qui va sur sa 13e année. Et nous avions d'abord, Tina et moi, choisi ensemble un autre prénom. Et puis, en voyant le déroulement des événements qui ont précédé la naissance d'Emmanuel, en décembre d'ailleurs, à la dernière minute pratiquement, nous avons décidé ensemble que nous lui donnerions un autre prénom. Parce que nous voulions aussi affirmer quelque chose de tout à fait particulier qui cadrait avec les événements qui avaient entouré la gestation, toute la préparation à la naissance de cet enfant. Alors on imagine là, pour Élimélec, bien des choses que la Bible ne dit pas clairement, mais que manifestement on est en droit de lire entre les lignes, puisqu'on sait que les noms n'étaient pas choisis comme ça simplement au hasard. Élimélec avait une charmante épouse. Naomi, ma beauté, mon charme, ma joie, ma grâce, ma douceur, ma tendresse. Vous pouvez être tout cela, n'est-ce pas, dans ce mot. Est-ce qu'elle était tellement mignonne à la naissance? Mais il est vrai que tous les enfants sont mignons à la naissance, en tout cas pour les parents, même quand ils sont moches comme tout, disons-le au passage. Mais ils ne peuvent qu'être jolis, jolis, mignons tout plein pour les parents. En tout cas, il semble qu'elle est ravie d'une manière toute particulière, sans doute le cœur de son proche entourage et de ses parents. Toujours est-il qu'elle a reçu un merveilleux nom, Naomi. Vous savez, il m'est arrivé de démarrer un séminaire sur la vie du couple en prenant le début du livre de Ruth. Parce que c'est intéressant de voir ce qui se cache derrière ces significations dans la vie de ce couple. heureux le couple qui est en Christ, dans lequel, d'une manière toute particulière, le mari est père de famille, a comme confession de foi vécu dans ma vie et dans mon foyer, l'Éternel est le roi. Et heureux le couple en Christ dans lequel l'épouse et la maman a à cœur de vivre cette vocation féminine qui est inscrite dans les Écritures et qui est en train de se perdre et de se dévoyer complètement. Celle d'être le cœur du foyer. Celle d'être l'hôtesse de l'air, comme j'aime à le dire, dans l'avion. La décoratrice de la maison. Celle qui donne une âme par sa dimension affective, par la part d'intuition féminine, de tendresse, de chaleur que peut apporter une femme qui remplit sa vocation, qui ne refoule pas son identité féminine comme on le fait actuellement. Je ne peux pas développer cela plus loin, mais il y a même ici, dans ce début du livre de Ruth, une piste très intéressante concernant les vocations respectives de mari et femme à l'intérieur d'un couple. Ce couple, Élimélec et Naomi, ont donc deux garçons. Et il semble que les naissances et déjà les grossesses se soient mal passées. Pourquoi ? Parce que ces deux garçons portent des noms difficiles à porter. Quand on sait que Maclon signifie maladie et Kilion languissant ou fragilité, on peut imaginer toute la portée d'un tel choix, toute la signification d'un tel choix. Est-ce que Naomi a connu une période difficile dans sa santé? Quelles ont été les circonstances pour qu'on donne de tels noms aux enfants? Et il semble bien que la signification maladie, languissant, fragilité corresponde à une réalité patente, tangible, puisque ces deux enfants mourront relativement tôt, pratiquement jeunes mariés. Donc manifestement, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au niveau de la santé dans la vie de ces enfants. On peut donc imaginer tout ce que cela peut signifier dans une vie de famille, notamment pour la mère aussi, qu'une situation difficile dans la vie des enfants, surtout dans une situation de crise, où l'horizon est bouché, où l'on a de la peine à subsister, période de famine, les enfants sont jeunes, ils ont besoin d'être soignés, entourés, nourris. Quelle situation dure. Vous voyez, le livre de Ruth commence très mal. Généralement, on passe en TGV par-dessus les premiers versets pour aller s'extasier sur Ruth et sa confession de fidélité extraordinaire. C'est pas comme ça que le livre de Ruth commence. Le livre de Ruth commence très mal. Et c'est parce qu'il commence très mal que la suite est si belle. Alors je m'imagine, dans cette situation de crise, lorsque les factures des visites médicales et de la visite à la pharmacie augmente, que les remboursements de la sécurité sociale diminuent. Je m'imagine tout ce que cela peut vouloir dire à la mode d'aujourd'hui. Que vont devenir nos enfants? Et c'est d'autant plus difficile parce que tous les matins, quand Elimelech ou Naomi, je parle à la mode d'aujourd'hui, ouvrent leur volet, ou le soir, lorsqu'ils les ferment, ils peuvent voir, comme je l'ai vu de mes propres yeux, là-bas, au-delà de la profonde dépression de la mère morte, juste de l'autre côté, en Jordanie actuelle, à quelques 80 km à vol d'oiseau, ils peuvent voir avec de bonnes jumelles des champs de blé extraordinaires. Des épis gras lourds, chargés, des moissonneuses au travail. Vous savez, c'est dur ces situations. Quelle tension de devoir se dire, mais c'est quand même pas juste, à 80 km d'ici, là-bas, de l'autre côté, ces gens sont heureux. Et nous, on est là avec nos difficultés, avec nos gosses, en mauvaise santé. La famine engendre le chômage, les entreprises ferment les unes après les autres. C'est toute la chaîne économique, c'est tout le puzzle, n'est-ce pas, qui est en train de s'éparpiller. Et j'imagine ce chef de famille, Elimelech, qui se tourne sur son lit, sur son bon matelas, en se disant, mais quelle est la solution? Est-ce qu'après tout, pour le bien de notre vie de famille, je vois que ma chère Naomi, là, elle est continuellement en souci. Elle porte encore plus que moi le poids des difficultés des enfants parce qu'elle est leur mère. Je vois qu'elle se prive pour le rassurer, au moins à eux, aux enfants, la subsistance dont ils ont besoin quotidiennement. Mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que la solution, après tout, ce ne serait pas de passer de l'autre côté, d'aller faire un tour là-bas? J'ai retrouvé la citation d'un rabbin qui, en 1840, écrivait ceci: la terre de Moab, appelée maintenant pays de Kérak, est jusqu'à présent une contrée comblée des plus abondantes bénédictions. Ces blés sont excellents entre tous les blés du monde, et c'est là que s'approvisionne la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem. 1840. savez, il y a dans nos vies comme ça des heures de choix stratégiques, des heures de décisions graves, des heures très difficiles. Peut-être Élimélec en a-t-il touché quelques mots à certains voisins, mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu ne crois pas que... Peut-être Élimélec a-t-il vu d'autres familles fermer les volets de leur maison, passer leurs clés aux voisins en disant « on reviendra, on part ». Toujours est-il qu'à un moment donné, Élimélec a dit à Naomi « écoute, chérie, on part. On part, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, on reviendra. On va aller là-bas, de l'autre côté, puisque ça va mieux là-bas, jusqu'à ce que ça aille mieux ici, puis on reviendra. Mais je ne peux pas continuer, je veux assurer un présent et un avenir à nos enfants. » Alors on a dit au revoir aux voisins, on leur a dit qu'on allait leur envoyer de belles cartes postales, on leur a laissé une clé, y compris pour relever le courrier, et puis on est parti de l'autre côté. Le choix était logique. Le choix était logique. Le choix était celui d'un père et d'un mari responsable. Et pourtant, faut-il le dire, cette logique n'était pas une logique d'en haut, et cette sagesse n'était pas une sagesse d'en haut, mais d'en bas. Même si dans certaines de nos versions, il est indiqué qu'il était pratiquement normal que dans des situations difficiles, les populations allaient vers des régions, etc., etc. Les notes en bas de page nous jouent parfois des tours pernicieux. Parce que Moab, ce n'est pas n'importe quoi. Moab, nous l'avons vu l'an dernier, les quelques-uns qui étaient avec nous s'en souviennent. Moab, c'est un peuple qui a toute une histoire. Il est issu d'une union incestueuse entre Lot, le neveu d'Abraham, ivre, et sa fille aînée. Ce que l'on est tenté d'appeler, pardon de le dire ainsi, c'est choquant, un inceste spirituel. Tout simplement parce que dans le texte de Genèse 19, versets 30 à 38, il est dit au verset 32, c'est sur les lèvres de l'aîné, elle dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. » L'usage de tous les pays. « Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » L'argument est spirituel. C'est important de conserver la race. Surtout dans le contexte de toute l'histoire d'Israël, n'est-ce pas? Mais c'est fou ce qu'on peut avoir comme argument spirituel pour pécher. Et vous savez qu'il y a eu, hélas, la naissance de Moab, verset 37, l'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Et la plus jeune enfanta aussi un fils par le même biais qu'elle appela du nom de Ben-Ammi. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Moab qui signifie... issu d'un père, c'est intéressant, n'est-ce pas? Issu d'un père, il y a là tout le programme de l'inceste qui se retrouve dans le choix du nom du père des Moabites. Et alors à partir de là, n'est-ce pas, l'histoire des relations entre Moab, d'ailleurs tout comme avec les Ammonites, l'histoire des relations entre Moab et Israël est une histoire très tumultueuse, très douloureuse. Moab, peuple plongé dans la corruption, livré aux idoles auxquelles il sacrifie ses enfants brûlés vifs à Kemosh. Et s'il y avait une idole qui était parmi les idoles horribles, avec Moloch, c'était bien Kemosh, la divinité principale des Moabites. Cette espèce de statue d'airain creuse dans laquelle on faisait du feu, n'est-ce pas, et on jetait des enfants, on les brûlait vifs à ces idoles, on offrait aussi des enfants en holocauste, on les assassinait, n'est-ce pas, à Kemosh également, il y en a des exemples. Si vous allez dans 2 Rois 3, 27, vous verrez comment un roi de Moab a offert son fils aîné en holocauste aux divinités de Moab. C'est aussi Moab qui va débaucher Israël sur le conseil du devin Balaam, Nombre 25, versets 2 et 3. Je lis ce texte simplement. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Et Israël s'attacha à Baal Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Moab, connu dans l'Ancien Testament comme un peuple ennemi de Dieu. Les prophètes, Ésaïe, Jérémie par exemple, diront qu'il est orgueilleux, arrogant, au cœur altier. C'est un peuple qui s'élève contre l'Éternel. Si vous allez simplement dans Jérémie chapitre 48, vous avez des prophéties sur Moab dans un très long chapitre. Verset 11, Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie. Quelle image, n'est-ce pas, d'un peuple qui s'est installé dans une fausse sécurité, qui avait besoin d'être secoué, qui avait besoin d'être déstabilisé. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Il n'allait pas en captivité, aussi son goût lui est-il resté, son odeur ne s'est-elle pas changée? Chapitre 48, toujours verset 26, « Enivrez-le, car il s'est élevé contre l'Éternel. » Verset 29, « Nous connaissons l'orgueil du superbe Moab, sa hauteur, sa fierté, son arrogance, son cœur altier. Je connais, dit l'Éternel, sa présomption et ses vains discours et ses œuvres de néant. » Verset 42, « Moab sera exterminé, il cessera d'être un peuple, car il s'est élevé contre l'Éternel. » Et ainsi de suite. Même le prophète Sophonie va évoquer les injures de Moab. Sophonie, chapitre 2, verset 8. Et puis alors, il y a un texte qui sonne le glas de Moab dans Deutéronome 23, versets 3 et 4, ou 4 et 5 si vous avez la version à la colombe, de Deutéronome 23, 3 et 4. L'Ammonite et le Moabite, vous voyez qu'ils sont ensemble, hein. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Malédiction sur Moab à la dixième génération et à perpétuité. Nous aurions pu ajouter d'ailleurs que Moab a été oppresseur d'Israël du temps des juges. précisément dans cette longue période de 3 siècles et demi, Juges chapitre 3, versets 12 à 14, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Un des cycles, c'est le deuxième cycle. Et l'Éternel fortifia Eglon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et verset 14, les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Eglon, roi de Moab. Que dirons-nous donc? Eh bien, nous dirons que Élimélec cède aux pressions de l'apparente sécurité en Moab. Élimélec entre en conflit avec son beau nom. Il conteste à Dieu sa seigneurie, sa royauté concrète sur lui. Et il m'interpelle, parce que loin de moi l'intention, dans cette étude, de faire le procès d'Élimélec. Je suis par trop tenté de lui ressembler. Élimélec m'interpelle, ou plutôt le Seigneur m'interpelle par le choix d'Élimélec, concernant mes propres choix. Parce que je confesse qu'il est plus facile d'affirmer la seigneurie de Christ dans nos credos, dans nos cantiques, ce beau cantique que nous avons chanté tout à l'heure, Abba Père, n'est-ce pas? Je veux être à toi entièrement, je veux faire toute ta volonté. Il est prenant, n'est-ce pas? On réalise qu'il a été certainement composé dans des circonstances particulières. Il y a une portée dans le message et la musique. Mais reconnaissons que c'est plus facile de chanter un tel cantique avec émotion, avec un sincère désir d'engagement, que de le dire lorsqu'on est placé devant certains choix difficile, qui nous engage non seulement en nous, mais qui engage ceux qui parfois dépendent de nous. C'est là, par exemple, qu'il est très difficile d'être parent ou d'avoir certains types de responsabilités où on sait que on doit parfois prendre des décisions extrêmement difficiles à prendre parce qu'il n'y a pas que nous. Peut-être que si Élimélec avait été tout seul, il n'aurait pas pris cette décision. Il aurait dit, moi je peux me débrouiller, moi je suis solide, ça va, la santé est à peu près bonne, je peux chercher des petits boulots, je suis prêt à toucher à tout, à mettre la main à la pâte, n'importe où, pourvu que je m'en sorte. Mais quand on est marié, quand on a des enfants, quand on est chef d'entreprise ou responsable d'un secteur dans un domaine de travail, quand on a des responsabilités dans tel domaine de la vie d'église, qu'on est ancien, diacre ou responsable, dans une œuvre à quelque degré que ce soit. C'est dur. Alors là, n'est-ce pas, il y a des moments où les choix peuvent être difficiles et où la seigneurie de Jésus-Christ peut paraître très difficile à avaler, n'est-ce pas? Vous savez que toute l'histoire de Ruth, elle-même, c'est vraiment l'histoire d'une femme qui a vécu dans sa vie personnelle la seigneurie de l'Éternel. Déjà, lorsque au chapitre 1, verset 16, elle Elle confesse ce qui est devenu un chant et un texte de méditation de mariage, très souvent, n'est-ce pas ? Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. J'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Mes amis, ça c'était une sacrée décision et une décision sacrée. Quelle portée ! Nous ne pouvons imaginer tout ce que cela pouvait signifier pour Ruth au point que Orpa, l'autre, elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu s'engager. Il faudrait prendre le temps d'éplucher ces différentes affirmations, n'est-ce pas ? Ton Dieu sera mon Dieu. Et elle utilise le nom du Dieu de l'Alliance, Yahvé. C'est-à-dire que elle dit en quelque sorte, je veux être dans l'Alliance de ton Dieu. Je veux être allié à ce Dieu. Ce n'est pas uniquement toi que je veux suivre par amitié, par sympathie, par solidarité, par lien d'alliance humaine. Non ! Je veux être personnellement allié à ton Dieu, c'est-à-dire que je renonce à toutes mes idoles avec tout ce que cela peut signifier. Ton peuple sera mon peuple. C'est fort cela. C'est plus vite lu que vécu. Moi, elle me rappelle ce que nous avons vu l'an dernier dans l'appel d'Abraham, n'est-ce pas ? Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Nous avons essayé de peser l'an dernier tout ce que cela pouvait dire pour cet Abraham. Toute cette rupture d'avec un lieu. Vous savez, j'étais heureux d'entendre Daniel parler du lieu parce que toute l'histoire du livre de Ruth tourne autour de l'importance du lieu, comme nous allons le voir. Et quand Ruth dit « Ton peuple sera mon peuple », elle accepte là de changer de lieu. Et en faisant cela, elle accepte et adopte le Seigneur, et je dirais aujourd'hui son Église. Elle veut aussi, c'est paradoxal, nous le verrons, entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Elle ne veut pas d'une sorte de christianisme évangélique indépendant. Bon, il y a une chose qui me trouble beaucoup, je le dis au passage, je ne peux pas le développer ici ce matin. C'est qu'on parle beaucoup d'évangélisation. On fait beaucoup d'évangélisation. Mais on est en train de dissocier complètement l'évangélisation dans bien des cas de l'importance de l'église locale. Et c'est dommage. Parce que le cadre dans lequel le bébé va vivre est important. Hein. On fait dans l'église exactement ce qu'on fait dans le monde aujourd'hui. Les maternités fonctionnent encore. Mais où vont les bébés qui naissent après ? Bon, c'est pas important. On peut rester dans le milieu où on était avant. Etc. Ce n'est pas l'attitude de Ruth. Ton peuple sera mon peuple. C'était un changement, c'était une révolution absolument incroyable. Où tu iras, j'irai. Non seulement ton peuple sera mon peuple, mais je veux vraiment partager toutes les joies et les peines du peuple auquel tu t'identifies. Je ne veux pas simplement rejoindre ton peuple et te suivre pour les jours où tout ira bien, en ayant en permanence une petite valise en réserve dans le placard pour le jour où je te dirai salut, je repars de l'autre côté. Où tu mourras, je mourrai. Un engagement à poursuivre le combat jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Toute la constance dans la marche avec Dieu, dans le service de Dieu, dans la vie de l'Église. Toutes sortes d'éléments qui sont en train si souvent de se désagréger aujourd'hui. Puis alors, la conclusion est impressionnante, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. C'était un serment. C'était un vœu solennel. Pas question de renier Dieu, quoi qu'il arrive. Dieu en est témoin. Et Dieu est un Dieu conséquent. Ça, c'était vraiment la seigneurie de Dieu dans la vie de Ruth. Lorsqu'elle a pris la décision de passer le Jourdain, c'est-à-dire de passer par la croix. Nous y reviendrons. Il y a là, n'est-ce pas, comme une apposition, une sorte de clair-obscur, n'est-ce pas? D'un côté, tout à fait au début de cette histoire, Élimélec qui conteste à Dieu sa seigneurie, de l'autre, à peine plus loin, Ruth, la Moabite, qui va en sens contraire, pour nous encourager à aller dans la bonne direction. Il me reste, pour terminer ce matin, à faire deux ou trois remarques. La première est d'importance. Le texte laisse entendre que la rupture ne se veut pas définitive. Il est dit dans le texte qu'un homme de Bethléem partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour, pour séjourner dans le pays de Moab. Lorsqu'Élimélec est parti, nous l'avons dit tout à l'heure, mais nous le rappelons maintenant, il est parti en homme qui prétendait contrôler la situation. En homme qui prétendait que l'avenir lui appartenait. Élimélec, en pensée, se projette dans l'avenir. Et il dit, je vais revenir. Je ne pars que pour séjourner. Poste restant. Je reviendrai. Je ne passe pas à la mairie pour parler de changement de domicile. En réalité, je garde un domicile ici. Et le problème, le texte le dit, n'est-ce pas, arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Ça a changé après. On s'est installé, matériellement, on s'est trouvé bien. Et puis un jour, c'était trop tard. Un jour, c'était trop tard parce que l'homme ne dispose pas du temps et de l'avenir. C'est Dieu. Et finalement, une tombe a été creusée en terre de Moab, puis une deuxième, puis une troisième. Et Élimélec n'a jamais revu sa terre et l'assemblée de l'Éternel. Vous savez, il y a des choix comme ça qui, nous le disons, nous installent dans le provisoire. Mais vous savez hein, ce que c'est que le provisoire. Vous connaissez le dicton, le provisoire qui dure. On fera les tapisseries quand on aura le temps. Hein? Puis 10 ans plus tard, les tapisseries ne sont toujours pas faites. Vous comprenez pourquoi nous devons réfléchir à nos choix. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où on fait des choix à court terme. C'est-à-dire, on ne réfléchit pas aux conséquences à long terme, au fait que tout peut changer. C'est facile de faire des promesses aujourd'hui que l'on sera absolument incapable de tenir l'année prochaine. Nos gouvernants d'aujourd'hui nous le prouvent continuellement. Chaque jour, il est des hommes politiques qui se mordent les doigts et les lèvres à cause de paroles qu'ils ont prononcées qu'ils n'auraient jamais dû prononcer. Parce qu'ils pensaient que... Puis la conjoncture, l'instabilité, l'évolution des situations mondiales, etc., n'est-ce pas, on fait que. Est-ce que nous mesurons les conséquences de nos choix? En tant que croyants, cette manière dont parfois nous nous installons dans le provisoire qui dure, au nom d'une certaine logique, d'une certaine sagesse. Voyez-vous, je suis absolument convaincu qu'Élimélec en Moab était un homme au cœur partagé. Je ne peux pas croire que quand il portait les regards sur la terre qui était sienne à Bethléem, dans l'autre sens maintenant, il n'avait pas le cœur qui se serrait à quelque part. Chaque fois qu'il portait les regards de l'autre côté, j'imagine qu'il devait se dire, mais en réalité, ma place, elle devrait être là-bas. Et Élimélec est devenu un homme écartelé, divisé, au cœur partagé, comme le dit le psaume 12, verset 3, un homme ayant un cœur et un cœur, dans le texte hébreu. Un cœur et un cœur. Élimélec, par certains côtés, devient, pardon de le dire, adultère, spirituellement parlant. Moab devient son amant. Oui, le nom Élimélec signifie toujours Dieu est roi, mais en réalité, Moab est là. Et Moab est la citerne crevassée. Alors vous me direz, mais vous ne pensez pas que vous vous trompez? Tout de même, il y a Ruth. Il y a Ruth. Le salut de Ruth. Mais il y a tout ce message extraordinaire de l'évangile annoncé aux païens. Alors est-ce que toute la suite de l'histoire ne justifie pas ce choix? Eh bien non, je ne le crois aucunement. Le salut de Ruth ne doit justifier en aucun cas le choix d'Élimélec. Croyez-vous que Dieu ait été pieds et poings liés à la personne d'Élimélec pour sauver Ruth? Croyez-vous que nous ayons un si petit Dieu? Non. Dieu pouvait très bien sauver par un autre biais. Ce qui est merveilleux, ce qui est extraordinaire, c'est que le livre de Ruth, c'est le triomphe de la grâce. Mais c'est le triomphe de la grâce lorsque certaines conditions sont remplies. Et ça, c'est ce que nous allons voir. Si Ruth s'est tournée vers l'Éternel et est devenue ancêtre de David, c'est à cause de Naomi. Il a fallu qu'il se passe quelque chose dans le cœur de la veuve. Et quand ce quelque chose s'est passé, alors la grâce de Dieu a explosé dans la vie de Ruth, la Moabite. Et vous savez, nous avons là un enseignement très important. Nous devons toujours nous souvenir que le péché reste péché, le mal reste toujours mal, même lorsque Dieu se sert de ses conséquences pour bénir. Ce n'est pas parce que Dieu bénit alors que l'on a chuté que la chute devient en elle-même une vertu. Le mal reste mal. Mais Dieu l'utilise dans sa souveraineté, dans ses conséquences, sans qu'il se passe une sorte d'alchimie quelconque, n'est-ce pas, qui ferait que, après tout, Élimélec a bien fait. Parce que nous justifions ainsi dans nos vies des attitudes de péché en disant, mais après tout, la fin justifie les moyens, vous voyez? Ça a bien tourné. Nous avons utilisé telle méthode, nous avons fait ceci et cela, vous voyez, il y a telle personne qui s'est convertie, etc. Je suis désolé, mes amis. Il y a un principe dans les Écritures, le mal reste mal. Dieu en utilise les conséquences lorsqu'il se passe quelque chose dans la vie de ses enfants. Et il en utilise les conséquences d'autre manière s'il ne se passe rien. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Je bénis Dieu pour la grâce de Dieu dans ce livre de Ruth. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée parce qu'il y a eu tout un retournement dans la vie d'une veuve qui va beaucoup nous intéresser.